Vous écoutez RFI à Paris, il est 8h, 6h à Nouakchott et 15h à Séoul.
Andréane Mélard.
Et Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
6 électeurs sur 10 ont déjà voté en Corée du Sud.
Et ce n'est que le bilan à la mi-journée. La participation s'annonce très forte pour choisir le président après 6 mois d'instabilité politique. On est à Séoul dès le début de ce journal. Ils se sont parlé, oui, mais pas bien longtemps, une heure à peine à Istanbul. Les négociateurs russes et ukrainiens, toujours pas d'accord sur un cessez-le-feu, mais ils repartent quand même avec la promesse d'un nouvel échange de prisonniers. Dans ce journal également, de nouvelles frappes israéliennes ce matin à Gaza. Tandis qu'aux États-Unis, un homme a été inculpé après une attaque au cocktail Molotov dimanche. C'était lors d'un rassemblement de soutien aux otages israéliens. On sera aussi en France, où les députés ont voté unanimement en faveur d'une loi visant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Un acte de réparation, 130 ans après sa condamnation. Vous entendrez les témoignages terribles de deux défenseurs des droits de l'homme kényans et ougandais torturés lors de leur détention en Tanzanie. Et puis Le Répondeur, un film qui sort demain en France et dans lequel un écrivain s'offre les services d'un imitateur pour répondre à sa place au coup de téléphone de ses proches.
Jour de vote au pays du matin calme.
Après 6 mois d'une atmosphère politique qui, elle, n'avait rien de calme. Élection présidentielle en Corée du Sud pour remplacer Yoon Suk-yeol, destitué après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Les Sud-Coréens espèrent maintenant tourner la page. Bonjour, Célio Fioretti.
Bonjour.
En direct de Séoul, Célio, c'est vraiment un vote très attendu.
Oui, effectivement. Certains pensaient que les 6 mois d'instabilité au gouvernement auraient découragé les Sud-Coréens de voter. C'est tout l'inverse. La semaine dernière, les bureaux de vote à l'étranger enregistraient un record de participation avec près de 80% des inscrits qui se sont déplacés. Aujourd'hui encore, la participation est importante, plus de 60% à midi. Un scrutin très attendu dont bénéficie le leader de l'opposition du centre-gauche, Lee Jae-myung, crédité dans les derniers sondages de 50% des intentions de vote. L'enjeu du scrutin est justement là. Faut-il laisser une seconde chance aux conservateurs au pouvoir après la loi martiale et la destitution du président ? Pour beaucoup de Coréens, il s'agit aujourd'hui de faire barrage à la droite coréenne dans l'espoir de retrouver un semblant de normalité. Ils ont encore quelques heures avant que les bureaux de vote ne ferment pour faire entendre leur voix.
Et on aura l'occasion de vous retrouver à Séoul, Célio Fioretti. Vous nous ferez vivre les résultats de cette élection. La Pologne, elle, s'est choisie un gagnant, estime Donald Trump, qui félicite son nouvel homologue, le nationaliste Karol Nawrocki, élu d'un cheveu au second tour de la présidentielle dimanche. Le premier ministre polonais Donald Tusk, pro-européen, sait que ça va compliquer l'adoption de ses réformes, mais il promet quand même de poursuivre sa gouvernance du pays. Il compte réclamer prochainement un vote de confiance au Parlement.
6000 corps de soldats russes contre 6000 corps de soldats ukrainiens.
À Kiev et Moscou vont se les échanger. C'est ce à quoi les négociateurs des deux pays se sont engagés hier à Istanbul en marge d'une nouvelle mais courte session de discussion directe. Un échange qui comprendra aussi tous les prisonniers de guerre de moins de 25 ans ainsi que ceux qui sont grièvement blessés. Rien d'annoncé par contre concernant un cessez-le-feu.
Alors la guerre continue et l'Ukraine a marqué les esprits dimanche.
Avec l'opération Toile d'araignée, des drones ont frappé simultanément plusieurs aérodromes militaires russes. Les services de sécurité ukrainiens revendiquent 41 avions touchés. Impossible de confirmer ce bilan. Olivier Four, les données en source ouverte analysées par RFI permettent pour l'instant d'affirmer visuellement qu'une dizaine d'appareils russes ont été détruits.
Au total, au moins 4 bases ont été visées. D'Olenia, dans l'Arctique russe, à Belaya, en Sibérie orientale. Des colonnes de fumée auraient été également filmées à Ivanovo, à 250 km de Moscou, et sur la base de Daguilevo, près de Riazan. Toutes ces bases ont pour particularité d'être situées sur une ligne à l'est de Moscou. Elles abritent le fer de lance de l'aviation à long rayon d'action de la Russie. Sur la base de Belaya, à 4300 km de l'Ukraine, une vidéo très largement diffusée montre un bombardier Tupolev 95 touché avec une grande précision. L'opérateur du drone a soigneusement visé le longeron de voilure, le principal élément structurel de l'aile, faisant subir des dégâts irréparables à l'appareil. À Olenia, à l'autre bout du pays, dans l'Arctique russe, un drone filme durant le raid. 4 bombardiers lourds sont en flammes, ainsi qu'un avion cargo quadrimoteur. Ivanovo est quant à elle une base de A-50, un avion radar d'une grande valeur. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie en a déjà perdu 2. Des comptes évoquent une attaque de drones visant cette base, mais aucune image ne permet à ce stade d'évaluer les dégâts. Même chose à Daguilevo, base de Tupolev 22 et de Sukhoi 34, utilisés contre l'Ukraine.
Enquête menée par la cellule InfoVérif de RFI à retrouver sur notre site internet.
Au moins 15 morts tôt ce matin à Gaza.
C'est la défense civile locale qui avance ce bilan et qui affirme que les militaires israéliens ont ouvert le feu à l'aide de chars et de drones sur des milliers de civils réunis près d'un rond-point au nord-ouest de Rafah. Dans la soirée, l'armée israélienne a appelé les habitants d'un quartier de Ran Younes à évacuer, ce qui laisse présager de nouvelles frappes. Et puis Israël annonce aussi la mort de 3 de ses soldats dans le nord de l'enclave. Cette fois, ça fait 424 soldats israéliens tués depuis le début de la guerre.
Et aux États-Unis, Gaëtan, un homme inculpé pour crime motivé par la haine.
Ah oui, c'est lui qui dimanche aurait lancé des engins incendiaires lors d'un rassemblement pour appeler à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. C'était dimanche donc dans le Colorado. Une douzaine de personnes ont été blessées. Et hier, les autorités de cet état de l'ouest des États-Unis ont donné plus de détails sur cette affaire qui agite notamment la classe politique, surtout que le suspect est en situation irrégulière. Correspondance à New York de Lubna Naki.
24 heures après son arrestation, Mohamed Sabri Soliman est passé devant le juge en tout et pour tout 2 minutes. Une première audience de routine pour lui notifier les charges qui pèsent contre lui, une vingtaine de chefs d'accusation dont ceux de tentative d'assassinat et détention d'engins explosifs. Lors d'une conférence de presse, les enquêteurs ont expliqué qu'il avait tout avoué. Aux policiers, Mohamed Sabri Soliman a expliqué avoir planifié cette attaque durant 1 an, qu'il voulait, je cite, « tuer tous les sionistes ». Les autorités insistent d'ailleurs sur le fait que son but était clairement de faire le plus de victimes possible, puisque 16 cocktails Molotov non utilisés ont été trouvés en sa possession lors de son arrestation. Cette attaque fait forcément beaucoup réagir. Donald Trump, sa porte-parole ou encore la ministre de la Justice ont tous déclaré, je cite, « cette haine n'a pas de place dans notre pays ». Certains proches du président n'hésitent pas à utiliser cette affaire pour appeler à une politique migratoire encore plus stricte. Mohamed Sabri Soliman est arrivé aux États-Unis en 2022 avec un visa touriste avant de faire une demande d'asile qui était toujours en cours. Nous devons en finir avec cette migration suicidaire, a écrit Stephen Miller, le monsieur immigration de Donald Trump. Lubna Naki, New York, RFI.
Et il y a une dizaine de jours déjà, 2 employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis avaient été tués par balle près d'un musée juif à Washington. Là encore, l'assaillant avait été interpellé.
En France aussi, les actes antisémites augmentent depuis le début de la guerre.
Et c'est dans ce contexte que les députés ont voté hier un texte déposé par l'ex-premier ministre Gabriel Attal pour le groupe Ensemble pour la République. Il voulait élever au grade de général de brigade Alfred Dreyfus, un capitaine qui en 1894 avait été condamné pour trahison sur de fausses accusations antisémites, contraint de s'exiler en Guyane après avoir été dégradé dans la cour de l'école militaire de Paris. Un dessin montrant la scène figure d'ailleurs dans tous les livres d'histoire du pays. Il sera finalement innocenté et réintégré dans l'armée en 1926, même si la question de sa réhabilitation complète mettra du temps à être abordée. Eh bien, une étape de plus de franchie, donc hier, Valérie Gasse.
Le vote a été unanime. Les 197 députés présents se sont exprimés en faveur de la proposition de loi qui comportait un article unique stipulant « La nation française élève à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade ». Grade que celui qui était capitaine au moment de son arrestation aurait dû atteindre s'il n'avait pas été condamné injustement. Une adoption symbolique qui a eu lieu devant les descendants d'Alfred Dreyfus présents dans l'hémicycle et qui marque une étape de plus dans sa réhabilitation. Ce texte prend aussi une signification particulièrement politique à un moment où les actes antisémites se multiplient en France. Le mémorial de la Shoah a par exemple été dégradé par des jets de peinture verte ce week-end. La ministre chargée des anciens combattants, Patricia Mirallès, l'a rappelé, l'antisémitisme frappe encore dans notre démocratie. Cette haine doit être combattue résolument. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a quant à elle estimé que l'adoption de ce texte n'était pas que symbolique. Pour elle, c'est ce que la France doit à ses enfants. Ce rétablissement dans ses droits, c'est très important. La proposition de loi doit maintenant être examinée au Sénat.
Valérie Gasse du service politique de RFI.
C'est un récit glaçant qui vient renforcer les accusations d'autoritarisme de la présidente tanzanienne.
Hier à Nairobi, au Kenya, les 2 défenseurs des droits de l'homme, kenyan et ougandais, Boniface Mwangi et Agather Atuhaire, ont partagé le récit de leur détention en Tanzanie. Ils avaient été arrêtés à Dar es Salaam il y a 2 semaines alors qu'ils étaient venus assister au procès de l'opposant Tundu Lissu. Après 3 jours de détention au secret, chacun a été expulsé dans son pays respectif. Alors désormais, il raconte Gaël Lalex.
C'est à leur hôtel que Boniface Mwangi et Agather Atuhaire sont arrêtés. Après un passage à l'immigration, puis dans un poste de police, des agents de la sécurité intérieure viennent les chercher. Dans la nuit, les mains attachées, les yeux bandés, ils sont emmenés dans un immeuble inconnu. Là, ils seront dénudés, puis pendus la tête en bas. Boniface Mwangi.
Là, ils ont commencé à frapper violemment sur mes pieds, tout en me questionnant. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Pourquoi es-tu venu déstabiliser notre pays? Puis un type a mis du lubrifiant dans mon derrière et a commencé à insérer des objets. Et il me demandait de dire « Merci Samia, merci Samia ». Alors j'ai remercié la présidente tanzanienne.
Non loin, Agather Atuhaire subit exactement les mêmes sévices. Durant ces 3 jours de détention, l'ambassade ougandaise ne s'inquiète pas de son sort. Pour Agather Atuhaire, c'est toute la région d'Afrique de l'Est qui est complice.
Je savais que le jour où je serais torturée viendrait. Je vis avec cette inquiétude en Ouganda. Mais je ne savais pas que ça arriverait en Tanzanie, où je n'ai absolument rien fait, même pas manifesté. Les officiels tanzaniens n'avaient pas peur du tout d'appeler des brutes pour faire ce qu'ils nous ont fait. Pour moi, c'est un niveau d'impunité que je ne saurais imaginer. En tant que citoyen d'Afrique de l'Est, on ne peut compter que sur nous-mêmes.
Dans un communiqué hier, un collectif d'organisations de la société civile de la région a demandé à la communauté internationale de se mobiliser contre les violences d'État en Afrique de l'Est. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
On termine ce journal avec ce film, Gaëtan, qui sera en salle demain en France.
Un film sur une prestation de service un petit peu particulière, celle que s'offre un écrivain en quête de calme qui embauche un imitateur pour répondre à sa place aux appels téléphoniques, y compris ceux de ses proches. Ça s'appelle Le Répondeur, prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est le comédien Salif Cissé qui tient le premier rôle, le premier grand rôle pour ce jeune comédien que rien de prédestiné à ce métier, Sophie Torlotin.
Moi, on n'est pas venu me chercher dans la rue, on n'est pas venu me repérer dans un square, donc j'ai dû faire mon parcours.
Un parcours à la fois classique pour tout aspirant comédien, mais exceptionnel pour un enfant des cités. Né d'une mère sénégalaise et d'un père malien, Salif Cissé se découvre une passion pour le théâtre au lycée.
Moi, j'ai fait l'option théâtre et on m'a conseillé très fortement de faire des conservatoires d'arrondissement. Et c'est la première fois que je me retrouvais face à une communauté de gens qui viennent de même origine sociale, du coup qui ont des codes que je n'avais pas, donc j'ai mis du temps à m'adapter. J'étais assis sur les bancs de l'école avec des gens qui sortaient de l'école alsacienne de Stanislas. Et tu te dis, c'est beau, ça fait plaisir.
En 2019, encore élève du Conservatoire National d'Art Dramatique, Salif Cissé obtient un rôle principal dans le film À l'abordage, sélectionné à la Berlinale. Dans Le Répondeur, l'acteur de 30 ans décroche le premier rôle en interprétant le double vocal d'un écrivain fatigué d'être dérangé par les appels de ses proches.
Oui, Baptiste.
J'ai votre ex-femme en ligne. Et...
Noyez le poisson.
Salif Cissé s'est posé la question des origines de son personnage.
On parlait de cette question avec Fabienne Godet, la réalisatrice du film. Et en fait, pour elle, c'était pas une question. La couleur de ma peau, ça n'a pas joué.
Cela ne joue pas non plus dans 2 nouveaux films, Météor et Love Me Tender, à l'affiche ces prochains mois.
Un sujet signé Sophie Torlotin.
Et je précise que Salif Cissé est notre invité culture ce mardi, à retrouver sur notre site RFI.fr et notre application RFI Pure Radio. Merci Gaëtan Plenet, 8h13 à Paris. Place à l'infosport avec vous, Olivier Pron. Du football pour commencer, l'équipe de France réunie depuis hier dans son antre de Clairefontaine.
Des Bleus qui s'apprêtent à disputer la finale à 4 de la Ligue des Nations. Après avoir éliminé la Croatie au tir au but en quart de finale, les Bleus affrontent l'Espagne ce jeudi à Stuttgart en Allemagne. Un adversaire de taille puisque la Roja est championne d'Europe en titre, on le rappelle. Un défi important notamment pour Manu Koné, le milieu de la Roma, arrivé en équipe de France en tout début de saison. En conférence de presse hier, il a retracé son jeune parcours en bleu.
J'ai fait ma première sélection en septembre. Jusqu'à présent, j'y suis encore. Donc je suis très content. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Au quotidien, aux entraînements et surtout en match, quand j'ai l'opportunité d'avoir des minutes de jeu ou quand le coach me fait confiance, j'essaie de me donner au maximum et de rester surtout moi-même. Je suis très content d'être là. On a une bonne équipe et j'espère qu'on ira loin ensemble. On est des compétiteurs. On sait que c'est un trophée à avoir, donc on va aller chercher ce trophée-là. Et on sait qu'il faut passer par l'Espagne. On est tous galvanisés. À l'entraînement, on se donne à fond. On a bien couru, je peux vous dire, le dernier jour, on bosse bien. Donc on est confiant et on va arriver au match l'esprit frais et tenter de gagner ce match.
Et un footballeur qui court, c'est toujours rassurant. L'équipe de France qui affrontera donc l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Champions ce jeudi, 18h45, temps universel. Match à suivre en direct et en intégralité, s'il vous plaît, sur la radio du Monde, RFI. La veille, demain donc, autre demi-finale, Allemagne-Portugal.
On parle tennis maintenant, Olivier, du côté de Roland-Garros.
Ouais, le tournoi de la Porte d'Auteuil à Paris, où hier, à 27 ans, le Kazakh Alexander Bublik, 62e mondial, s'est offert un premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, lui qui fait souvent la une pour ses colères et fantaisies en tout genre, parfois déconcertantes, souvent emballantes, comme hier. Il a su cette fois rester concentré de bout en bout contre Jack Draper, le Britannique, 5e joueur dans la hiérarchie. Un service costaud, des merveilles d'amorti pour une victoire référence en 4-7, Alexander Bublik avec Frédéric Suteau.
I left it all out there, you know.
J'ai tout donné sur ce match, j'ai des qualités tennistiques, je le sais, et là tout a fonctionné à merveille. C'est assurément l'une de mes meilleures journées sur un court, l'un des meilleurs matchs que j'ai joué. Je n'avais pas d'autre solution que de tout donner, et si ça n'avait pas marché, ça n'aurait pas marché, mais il fallait que je gagne. J'ai joué au maximum de ce que je pouvais faire, j'ai pris beaucoup de risques, c'est vrai.
En quart de finale, Alexander Bublik affrontera mercredi Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, autre qualifié pour ses quarts qui débutent aujourd'hui, Alexander Zverev et Novak Djokovic qui s'opposeront. Chez les femmes, c'est passé pour la Française Loïse Boisson qui affrontera pour une place en demi la jeune Russe Mira Andreeva.
Merci Olivier Pron. Et bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
Et oui, avec vous Stéphane, on va parler de Taylor Swift ce matin, son titre Shake It Off que l'on entend ici. Alors, vous ne vous trompez pas, c'est bien aujourd'hui l'économie que vous écoutez. En effet, on revient ce matin avec vous sur une décision prise par la chanteuse américaine qui vient de racheter les droits de ses 6 premiers albums pour une somme non officiellement dévoilée, mais on parle probablement ici de centaines de millions de dollars, et c'est un vrai bouleversement dans l'industrie musicale.
Oui, c'est un secteur qui pèse lourd, hein, 30 milliards de dollars l'an passé, et le sujet du moment, c'est la maîtrise des droits de propriété intellectuelle des œuvres. C'est en tout cas le combat de Taylor Swift, car l'industrie musicale s'est historiquement construite sur un certain déséquilibre dans les contrats. En échange du financement de leur production, les artistes cèdent la propriété de leurs enregistrements originaux, on appelle ça des masters, à leur label.
Et le problème, eh bien, c'est que ce sont ces masters qui génèrent des revenus.
Précisément, grâce évidemment aux ventes d'albums et au streaming, mais aussi à l'utilisation des titres dans les médias, dans des publicités ou lorsqu'ils sont en partie utilisés pour une autre chanson par exemple. Concrètement, à chaque fois qu'un morceau est diffusé dans un centre commercial, à la radio ou dans une série sur Netflix, le détenteur des droits gagne de l'argent.
Détenteur des droits qui n'est donc pas l'artiste mais bien le label.
Exactement, et pour reprendre le cas de Taylor Swift, c'est en 2019 que tout s'active lorsque le contrat avec son ancien label prend fin. Comme il détenait les masters, il les a tout simplement revendus à un autre, une pratique qui est finalement courante. En fait, les catalogues musicaux sont un peu traités comme des actifs financiers qui sont revendus sans pour autant consulter les artistes.
Donc, comment faire pour toucher des droits sur ses propres chansons ?
Eh bien, Taylor Swift a exploité une faille contractuelle. Elle n'avait en effet pas les droits sur ses masters originaux, mais elle avait les droits d'auteur, à savoir les paroles, la mélodie. Ça lui a permis de réenregistrer certains morceaux. Les nouvelles versions ont bien fonctionné et ont cannibalisé les écoutes des originales tout en générant de nouveaux revenus grâce à la pub, par exemple, et d'autres titres inédits. Un pari gagnant, mais une pratique qui reste coûteuse, hein, car enregistrer un album, ça coûte cher et tous les artistes n'ont pas les moyens de tels investissements. Voilà donc pour cette première solution qui nécessite tout de même de trouver un arrangement avec le label. L'autre solution, en fait, elle est plus simple, Andréane. C'est d'ailleurs la seconde partie de la stratégie de Taylor Swift, à savoir racheter les droits.
Alors, Stéphane, ces contrats, ça fait partie de l'histoire de la musique et de son fonctionnement, mais il y a une réelle prise de conscience des artistes.
Oui, par exemple, Kanye West a racheté de manière anticipée ses masters chez Universal en 2022. À l'époque, Paul McCartney des Beatles n'a pas pu empêcher la vente du catalogue de ses chansons du groupe à un autre éditeur. Bref, ce contrôle des droits devient un levier d'émancipation artistique, mais aussi une arme économique. Car tout l'enjeu maintenant, c'est qu'artistes et labels se mettent dès le début au diapason sur ces sujets.
Stéphane Geneste pour aujourd'hui l'économie, 8h19 ici à Paris. L'heure de retrouver notre grand invité international, Daniele Zappalà, docteur en géopolitique et correspondant du quotidien italien Avvenire. Il est en studio face à Arnaud Pontus.
Bonjour Daniele Zappalà.
Bonjour, buongiorno.
Emmanuel Macron sera tout à l'heure à Rome pour rencontrer Giorgia Meloni. On sait que le président français et la chef du gouvernement italien ne sont pas les meilleurs amis du monde. Est-ce qu'ils ont quand même quelque chose à se dire?
C'est quand même dans la meilleure tradition franco-italienne et je crois qu'ils auront énormément des sujets à aborder car aujourd'hui l'Europe a besoin de cette relation franco-italienne qui a connu des hauts et des bas mais qui représente quand même l'un des piliers du continent et de l'influence européenne dans le monde entier.
Comment vous qualifiez les relations aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni?
Ce sont en fait des relations qui nécessitent de une vraiment mise au clair sur tout un tas de questions. Après, bien sûr, les bouleversements de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a effectivement bousculé et également ont laissé les jets diplomatiques au sein de l'Europe.
Oui. Giorgia Meloni assure qu'il n'y a pas de problème entre elle et Emmanuel Macron. Est-ce que, au vu des tensions, des petits mots qui se sont échangés, est-ce qu'on peut la croire?
Je pense qu'elle est une personnalité très pragmatique, donc elle sait toujours bien doser les moments où en fait elle part un peu à l'attaque, et on en a vu en fait plusieurs ces dernières années, donc voilà, elle ne s'est pas privée de critiquer parfois de manière âpre Paris, mais c'est vrai que là, l'air paraît quand même à un peu une baisse à nouveau de la tension, car il y a des dossiers, l'Ukraine et autres, qui quand même attendent les deux chancelleries.
Oui, Giorgia Meloni a dit il y a quelques jours, les chefs d'État discutent parfois de manière très vive, mais cela ne compromet pas et ne modifie pas les rapports entre les nations. C'est ça, il faut passer au-delà des désaccords, peut-être personnels d'ailleurs, entre Macron et Meloni. Mais il y a quelque chose de personnel, une dimension personnelle dans la tension que l'on observe depuis quasiment son arrivée au pouvoir en 2022.
Oui, je pense que c'est tout l'enjeu en fait de cette rencontre d'un point de vue de relations franco-italiennes. Il faut que à la fois Madame Meloni et Emmanuel Macron finalement sachent séparer leur rôle en fait de représentants des pays respectifs, avec bien évidemment aussi leurs convictions idéologiques. On le sait, Macron a essayé de se présenter comme un peu le nouveau chevalier d'une Europe renouvelée. Et il a un parti échoué, et Meloni aujourd'hui voudrait en fait prendre l'ascendant sur ces camps conservateur national.
Oui, conservateur national populiste,
voilà.
Avec la Pologne qui se joint, enfin le président polonais qui se joint à cet ensemble en quelque
sorte. Voilà, disons que c'est aujourd'hui l'élément qui, d'un point de vue de l'influence italienne, peut un tout petit peu peser du côté des Meloni, et bien sûr Macron, on peut dire pour un peu rigoler, que a bien choisi les moments après la finale de Champions League, car effectivement, cela a laissé des véritables balafres dans les cœurs de beaucoup d'Italiens.
Ah oui, ça c'est le Milanais qui parle. Hein. Daniele Zappalà, on va quand même dire que des relations tendues ou un petit peu conflictuelles entre la France et l'Italie, ça n'est pas né avec l'arrivée de ce tandem, de ce duo Meloni-Macron. Ça a existé bien des années avant.
Des années, et si j'ose dire, même des siècles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un espace qui est conflictuel d'un point de vue géopolitique entre les deux pays, c'est bien la Méditerranée, et disons les divergences entre les deux pays remontent, on va dire, même au 18e, 19e siècle, avec cette trahison perçue par les Italiens de la part d'un Napoléon qui avait à l'époque bradé la Sérénissime, en fait, Venise, ce qui avait été en fait un coup énorme d'un point de vue, effectivement, de l'image de la France en Italie. Même les meilleurs admirateurs de la France et de la Révolution à l'époque avait complètement tourné les dos, et encore aujourd'hui, la Méditerranée, d'un point de vue économique, reste les grands enjeux des relations franco-italiennes, dans la mesure où l'Italie s'estime quand même un peu dépossédée de son rôle central dans cet espace, et la France, ces dernières années, n'a pas en fait trop fait pour, on va dire, conforter en fait cette impression.
Oui, l'un des points de tension entre Paris et Rome, c'est le dossier de l'immigration. On se souvient qu'il y avait eu une vraie crise il y a 2 ans, hein, quand le ministre français de l'Intérieur de l'époque avait dit, c'était Gérald Darmanin, que Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires de l'Italie. Le président français avait un peu rectifié le tir quelques mois plus tard. Est-ce que ces désaccords sont de l'ordre du passé aujourd'hui sur la question migratoire?
Je crois qu'il y a encore énormément d'incompréhension à propos du ministre Darmanin de l'époque. Les Italiens se souviennent bien de cette phrase, la politique migratoire italienne est inhumaine, alors que finalement il y a des territoires italiens, Lampedusa et plein d'autres, qui ont supporté vraiment des efforts énormes, qui ont reçu des prix internationaux pour en fait leur capacité tout de même d'accueil, etc. C'est vrai que ces dossiers, malgré tout, restent l'un des dossiers les plus en fait difficiles à aborder, car il y a une véritable blessure d'une Italie qui, pendant très longtemps, s'est sentie un peu seule face à ces phénomènes relativement nouveaux, et avec une France qui finalement avait un discours qui n'était pas du tout à l'enseigne de la solidarité. Et là, c'est vrai, c'est une blessure qui demeure, je crois, encore d'actualité.
Daniel Zavala, on pointe souvent la proximité idéologique entre Giorgia Meloni et Donald Trump, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'elle est réelle, cette proximité?
Je crois qu'il y a déjà une donnée de fond, un fondamental de la politique étrangère italienne, c'est cette fidélité à l'axe avec les États-Unis. Mmh. Et donc, indépendamment de l'homme ou de la femme qui s'installe à la Maison Blanche, il y a cette fidélité. Ensuite, pour ce qui est des relations,
c'est l'histoire.
Même à l'époque du fascisme, il y avait plein d'Italiens qui avaient en fait chez eux l'affiche du président Roosevelt pour vous dire quel était en fait les niveau des conflits. Ouais. Or, pour venir effectivement en relation Meloni-Trump, c'est vrai que ce sont des relations qui ont un côté opportuniste, dans la mesure où, à travers cette relation complicité idéologique, Madame Meloni essaye de revenir au cœur du concert européen. On sait que là aussi, en fait, on est dans l'histoire. L'Italie cherche depuis toujours à retrouver cette centralité au sein du jeu, en fait, diplomatique européen, envoyant en fait une France qui privilégie bien sûr sa relation avec Berlin et donc voilà, Meloni encore il y a quelques jours disait au patronat, regardez avec moi, l'Italie reprend en fait cette place au cœur de l'Europe. Donc c'est un sujet vraiment historique et classique.
Oui. Est-ce que Giorgia Meloni peut faire office de lien, de pont, presque de médiatrice entre cette Amérique de Trump, dont Trump dit qu'il est ami, hein, et l'Union européenne alors qu'on est en pleine guerre commerciale? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer là?
Disons que c'est une ligne de crête vraiment difficile à parcourir pour elle, car l'Italie a énormément d'intérêts économiques au niveau de son export vis-à-vis des États-Unis. Donc l'offensive douanière de Trump, bien évidemment, peut nuire lourdement à ce qui est les poumons, quand même également, de la crédibilité italienne dans le monde. L'Italie, c'est le deuxième exportateur européen après l'Allemagne, et surtout, c'est le seul, ces 10 dernières années, à avoir conservé sa part dans les exportations mondiales. Ça, on a tendance à l'oublier. C'est la véritable force aussi de Meloni, à savoir le fait d'être à la tête de ce que certains appellent même un dragon économique, dans la mesure où elle a conservé sa part, alors que même l'Allemagne a un peu dégringolé.
A perdu, oui. Donc elle espère profiter de cette position, en fait, pour, sur les droits de douane, amadouer un peu Trump, si je comprends bien.
Il y a un peu un jeu d'équilibrisme. Elle est obligée, effectivement, d'être un peu dans les acrobaties. D'autant plus, on le sait, en raison de l'imprévisibilité du président Trump. Mais en tout cas, c'est effectivement sa tentative, et jusqu'à présent ça a plus ou moins marché.
Merci Daniel Zavala d'être venu ce matin, et on va aller boire un café italien à la santé de la bonne relation franco-italienne.
A presto.
À bientôt.
Entretien avec Arnaud Pontus sur RFI.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Alimentation, sport, hydratation, on parle de la santé sans ordonnance. Qu'est-ce qu'une bonne hygiène de vie pour prévenir les maladies sans aller chez le médecin?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous avez moins de 30 ans, résidez dans un pays d'Afrique et souhaitez publier votre premier roman? La 5e édition du prix Voix d'Afrique est lancée. Ce prix littéraire, initié par RFI et les éditions Lattès, en partenariat avec la Cité internationale des arts, est destiné aux jeunes auteurs du continent africain. Envoyez-nous dès maintenant votre roman sur le site édition-jclattès.fr, rubrique Prix Voix d'Afrique. C'est peut-être vous, la nouvelle voix d'Afrique.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.